Rayon libre.
Visiblement, il semblerait que vous n'appréciez pas la bicyclette, mes amis, hein? Vous estimez sans doute que le monde n'a pas besoin de pratiquer le vélo, hein? Que le monde n'a pas besoin d'un peu de cyclisme ni de savoir-vivre, hein?
Rayon libre sur Cause Commune.
L'idée, c'est que toutes les personnes qui peuvent faire du vélo le fassent. Et il y a encore de la marge, hein?
Je pense que le vélo, c'est tellement un outil qui rend libre.
Rayon libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Cette émission est en direct et cette semaine, on va se poser la question, le vélo, où est donc passé le momentum politique? Mais avant, merci pour votre fidélité, vos messages, vos suggestions. Merci à vous, fidèles au poste et au podcast. On repart pour une nouvelle saison de Rayon Libre. Je vous avoue, je ne sais pas bien si on en est à la 5e ou la 6e ou la 7e saison. Je sais juste qu'aujourd'hui, nous faisons l'épisode 312. Rayon Libre est l'émission 312e du nom. Je sais aussi que le premier épisode que vous pouvez retrouver, évidemment, dans nos archives sur le site de Cause Commune, c'est l'émission numéro 2. L'invité était alors Olivier Schneider. La personne qui invitait était Abel Guggenheim. C'était 43 minutes d'échange entre donc Abel Guggenheim et l'ancien président de la FUB. Selon nos archives, cette émission est en stock donc depuis le 4 mars 2018. On lancerait donc la 8e saison. 2018, ça fait un bail. Évidemment, hein, je suis toujours ravi et motivé de vous proposer ce rendez-vous hebdomadaire. Je le dis souvent, Rayon Libre est une sorte d'étude sociologique du vélo faite en live. Une photographie des cyclistes, de celles ou ceux qui de celles ou ceux qui font le vélo ou font du vélo. Une photographie de l'air du temps aussi. Et si aujourd'hui nous avions avec nous Olivier Schneider, que dirait-il de différent en 2025 par rapport à 2018? Et si nous avions Anne Hidalgo, qu'Abel a reçue en mai 2018, que dirait-elle de différent à propos de vélo? J'évoque des élus. Le vélo, c'est le mouvement, se déplacer. Et par essence, le vélo n'est pas figé. Nous pourrions inviter au micro l'ensemble des personnes qui sont déjà venues s'exprimer et leur demander, le vélo pour vous aujourd'hui, c'est quoi? Et ben, en septembre 2025, je prends le pari que leur réponse serait certainement différentes de celles qu'elles ont données à ce micro en 2019 ou 2020 ou 2024. Avant d'échanger avec Abel, je veux juste poser un constat qui m'enthousiasme et un autre qui m'agace. Cet été, je suis resté en France, direction l'arrière-pays varois, dans le pays de Fayence et un passage aussi sur la Côte d'Azur. Ce qui m'enthousiasme, notamment sur la Côte d'Azur, en bord de mer ou pas loin, c'est de constater qu'il y a plus en plus d'estivants qui se déplacent à vélo, qui vont à la plage à vélo, qui vont à la boulangerie à vélo, qui composent avec les quelques aménagements disponibles ou créés, souvent trop pauvres. Le vélo reste anecdotique, hein, les parkings de plages sont pleins de voitures et les 10 ou 20 arceaux vélos sont occupés. Et ce qui m'agace, et ben notamment dans l'arrière-pays varois, ce sont des aménagements cyclables vraiment tout pourris. Ces tronçons de voies vertes ridicules, la Méditerranée à vélo entre Draguignan et Grasse, à peine 20 km de voies cyclables, je les ai fait, qui sont pas forcément très confortables pour tout vous dire, et 70 km de voies partagées, rien du tout. Ce qui m'enthousiasme malgré tout, l'impression, mais ce n'est peut-être qu'une impression et du ressenti, les automobilistes coincés derrière des cyclistes prennent un peu plus leur mal en patience. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Avec Abel, aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer non pas un bilan, peut-être un pré-bilan. On arrive en fin de mandat municipal. En janvier 2020 à Paris, il y avait eu le grand oral vélo. Tous, ou presque, les candidats et candidates sont venus présenter leur plan vélo pour la prochaine mandature. Je me demande si le vélo va continuer à avoir la même place dans la politique municipale. Est-ce qu'il y a encore ce même momentum sur le vélo? Selon Abel, qu'est-ce qui est acquis? Qu'est-ce qui reste encore comme des points d'attention? Et si on élargit le spectre de Paris à la région, le rêve, il en est où? Aussi, nous sommes maintenant après les JO, les JO de Paris et Paralympiques. Et peut-on parler d'héritage vélo et le baromètre? Bonjour Abel, merci d'être au micro avec nous aujourd'hui et d'être en studio même.
Bonjour Jean, Jérôme.
Donc merci d'être avec nous. Ta vision du vélo qui évolue, on le sent bien en écoutant les chroniques que tu nous proposes toutes les semaines. Je vais faire une entorse à mon habitude qui est de vouvoyer mes invités. Abel, si tu veux bien, je te tutoie au micro comme dans la vie.
Ça marche.
Et ma première question, si tu fais cet exercice de regard en arrière à l'échelle de Rayon Libre, le vélo en mars 2018, pour toi c'était quoi? Et en septembre 2025, pour toi c'est quoi?
Alors effectivement, la vraie différence, c'est ce dont tu as parlé tout à l'heure au sujet dans les vacances, là, près de la plage, c'est que le vélo est maintenant reconnu comme un mode de déplacement à part entière. Oui. Et ça commençait à être le cas quand on a commencé l'émission en 2018, mais pas depuis très longtemps. Hein, et alors justement, tu parlais d'Anne Hidalgo. Donc moi je l'ai reçu à cette époque-là en 2018, j'avais déjà reçu un peu avant, en 2016, quand j'étais sur France Bleu dans une émission
avec Michael Tardu.
Oui c'est ça exactement, ouais. et en fait, et je la connaissais depuis assez longtemps, Anne Hidalgo, et J'avais cherché à la convertir au vélo et c'était un échec complet. C'est-à-dire, elle était, comme beaucoup de socialistes par exemple, elle était persuadée que c'était voiture versus transport en commun, que le vélo n'était pas pris au sérieux comme un mode de déplacement significatif.
Et pourtant, pardon, mais Anne Hidalgo, elle arrive après Delannoy, qui avait lancé le Vélib', qui avait fait beaucoup pour le vélo.
Oui, mais...
Et qui était socialiste aussi.
Oui, absolument, mais... C'était pas justement le Vélib, c'est intéressant, c'est-à-dire que c'était pas considéré comme quelque chose de sérieux, de significatif. C'était plutôt si vous voulez vous déplacer à vélo, vous pouvez le faire, on vous donne on vous fournit des vélos, mais c'était pas on concevait pas que le vélo pouvait prendre une place significative dans le système de déplacement à Paris, mais un peu partout en France. Hein, c'était à l'époque, c'était comme ça. C'était pas vraiment. Aujourd'hui, je vais dire autrement. À l'époque, quand on faisait la liste des modes de déplacement, le vélo n'était pas cité.
Oui.
Et maintenant, il y a aucun endroit où on le met pas dans la liste des modes de déplacement. Donc, et par exemple,
sauf peut-être cette conférence sur les transports qui a eu lieu au mois de mars, avril, mai, où on a parlé de tout sauf de vélo. C'était, je sais plus quel est le titre de cette convention sur les transports. Sur le vélo, le grand oublié.
Oui, sur le financement. Oui, ouais. C'est ça. Oui. Oui, il y a des exceptions, mais globalement, par exemple, quand il y a un colloque ou un truc comme ça. C'est venir en train, oui. Venir en voiture, et maintenant il y a marqué venir à vélo. Alors c'est un peu particulier parce qu'en fait on met les stations Vélib, ce qui n'est pas l'élément plus significatif, mais on considère que le vélo existe comme mode de déplacement.
Oui.
Et c'est un peu dû aux gens qui en parlent depuis longtemps. Et c'est une anecdote que je cite souvent, je ne sais pas si je ne l'ai pas déjà racontée. Une fois, c'était un colloque sur les rencontres parlementaires sur les transports à l'Assemblée nationale auquel j'assistais, et Olivier Schneider était à la tribune, il était intervenu, très bien d'ailleurs, et à la fin, je viens le voir, et je lui demande, je lui dis, c'est la première fois que tu viens à ce colloque il me dit oui, et je lui dis, moi je viens depuis des années, chaque année, mais moi, je suis pas à la tribune. J'étais dans la salle, quoi. Et à un moment, j'essayais de lever la main. Et je trouvais une astuce. Quelqu'un avait employé le mot véhicule, par exemple. Alors, je levais la main pour dire là, vous avez dit véhicule tout à l'heure, mais vous parlez de véhicule à quatre roues motorisées. Hein, vous savez qu'il en existe aussi avec moins de roues et qui n'ont pas de moteur. Et donc, je faisais une petite incidente pour que les gens aient l'existence du vélo dans la tête. Mais à l'époque, on n'était jamais invité à la tribune, quoi. C'est oui. Pas. Et maintenant, c'est différent. Et il y a un atelier vélo de chaque fois qu'on parle de déplacement. Donc là, ça, c'est quelque chose qui est maintenant bien imprimé.
Mais je voudrais reposer cette question, mais à titre personnel, ouais. Toi, Abel Guggenheim, alors en mars 2018, ce qui m'intéresse plus, c'est aujourd'hui pour toi, l'homme que tu es, le citoyen que tu es, en septembre 2025, le vélo pour toi, en tant qu'être humain et en tant que citoyen, c'est quoi?
Alors. Tu vas m'obliger à dire des choses. Bon, moi j'ai 78 ans maintenant et je suis dans la phase déclinante de ma santé, c'est-à-dire que, par exemple, hein, comme je te l'ai expliqué dans la courte discussion qu'on a eue tout à l'heure, avant, quand je venais faire l'émission ici, je venais en vélo et je repartais à vélo. Là, j'ai pris le vélo jusqu'à la gare Saint-Lazare et là j'ai pris le métro pour monter jusqu'ici, parce que ça m'est pour moi difficile, hein, donc,
ouais.
Donc, mais pour moi, c'est mon mode de, ça continue à être mon mode de déplacement principal, parce que j'habite en plein centre de Paris et que je me déplace pas beaucoup et que comme je suis à la retraite, j'ai pas de déplacement domicile-travail, mais il est maintenant de plus en plus à égalité avec les transports en commun, ou justement comme je l'ai fait aujourd'hui en déplacement
multimodal.
Oui, multimodal, exactement.
Et ça reste ton mode de déplacement préféré ou pas?
Oui, absolument. Oui. C'est pas.
Oui, mais c'est. tu pourrais dire, non, parce que comme tu viens de l'expliquer, avec l'âge ou avec l'habitude ou avec, tu pourrais très bien dire, finalement, aujourd'hui, je préfère marcher.
Oui, non, j'aime bien marcher, hein, mais non, mais le vélo. Alors, si, je peux le dire, hein, c'est un objet tellement magique qui permet, avec peu d'énergie, de parcourir des distances relativement importantes. C'est un dans un créneau de longueur de déplacement, c'est un objet magique, hein, ouais.
On va revenir, quand on écoute tes chroniques, que évidemment nos auditeurs et auditrices peuvent retrouver en ligne, c'est toujours autour de la 25e minute de chaque rayon libre, j'ai comme l'impression qu'après avoir défendu et encouragé la pratique du vélo, on l'entend d'ailleurs dans le générique, hein, c'est toi qui dis, je te cite, l'idée est que toutes les personnes qui peuvent faire du vélo le fassent, et croyez-moi, il y a encore de la marge, t'es passé dans un discours un tantinet différent, que toutes les personnes qui font du vélo le fassent, mais de manière peut-être plus respectueuse des autres, et j'ajouterais, croyez-moi, il y a encore de la marge. Est-ce que ça veut dire, selon toi, que le combat, entre guillemets, est passé de plus de monde sur un vélo à plus de cyclistes respectueux?
On peut dire ça, oui, j'aime bien la manière dont tu le dis, je le dirais comme ça, hein. Mais bon, c'est une anecdote que je cite souvent, qui est importante. Donc moi j'ai eu 18 ans en 1965, j'ai immédiatement passé mon permis, et puis 3 ans après, j'achetais une voiture avec les économies que je faisais depuis plusieurs années. J'ai acheté une deuxième voiture après, depuis j'ai abandonné la voiture, une 2 chevaux, une Dauphine j'ai eu. Et pourquoi j'ai acheté une voiture alors que en fait je faisais du vélo depuis plusieurs années, mon vélo était mon vrai mode de déplacement. Ben, simplement parce que les gens de ma génération, on leur disait tu sais, pour te déplacer, il y a un objet qui est fantastique, qui est rapide, qui est pratique, qui est moderne, et en plus on est en train d'aménager la ville pour ça, c'est la bagnole. Et les gens de la génération d'aujourd'hui, bah, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, tu sais, pour te déplacer, il y a un objet qui est pratique, rapide, moderne, et en plus, on est en train d'aménager la ville pour ça, c'est le vélo. Donc, de temps en temps, on voit sur les réseaux sociaux des gens qui disent « Ah, les cyclistes, ils sont comme les automobilistes ». Bah oui, pourquoi? Parce qu'ils sont dans la même situation, c'est-à-dire que les gens... On leur dit, il y a un truc formidable, et ben ils le prennent, et puis ils voient que c'est effectivement formidable, parce que la bagnole aussi, c'était formidable. Hein. Effectivement, on adaptait la ville à la bagnole, ben maintenant on fait pour le vélo. Donc il n'y avait aucune raison pour que les gens à qui on tient ce discours pour le vélo, ils se conduisent différemment que ceux avec la voiture. Et ben les gens qui sont en bagnole, ben, ils se conduisent mal parce qu'on leur a expliqué que c'est les chefs quoi. Là on leur dit c'est vous les chefs, ben ils se conduisent mal.
Ouais.
Et il faut aujourd'hui qu'ils se conduisent bien et en particulier qu'ils comprennent que les autres existent et que il faut une ville pour tout le monde.
Ouais.
Et c'est vrai que ces derniers temps on a quand même peut-être trop encenser le vélo comme objet, je disais tout à l'heure, c'est magique. Ben oui, c'est magique, mais la magie, ça se fait pas au détriment des autres. Hein, il faut et on peut en profiter de manière correcte vis-à-vis des autres. Et c'est vrai, je suis pas le seul à le dire, hein, mais tout le monde le dit. Des cyclistes qui sont de véritables salopards, ça existe. C'est-à-dire des gens qui te foncent dessus. J'en ai raconté dans ma chronique. Hein,
tes chroniques parlent beaucoup de ça. Mais justement, alors ça veut dire que si c'est ça le shift, ou en tout cas là autour de la table, et toi et moi, on fait à peu près le même constat.
Oui.
Qu'est-ce que ça change pour les associations militantes, pour les militants? Qu'est-ce que ça change dans leurs discours et dans leurs actions?
Eh ben,
selon toi,
c'est peut-être là que le bât blesse. C'est-à-dire que de même que les associations d'automobilistes, quand on dit il y a un automobiliste par exemple l'affaire de Paul Varry, j'ai jamais entendu 40 millions d'automobilistes dire se battre la coulpe en disant au contraire, ils disent plutôt ah oui, alors en fait c'est vrai que le mec qui a tué Paul c'était vraiment un salopard, hein, mais c'est pas une raison, c'est-à-dire
on va laisser la justice quand même le définir ça, mais a priori oui.
Oui, c'est vrai, tu as raison.
Après, parce qu'il est toujours pas condamné. Oui. En tout cas, il est présumé coupable, mais il est toujours pas jugé.
Tu as raison de me reprendre, mais c'est vrai que ça aurait pas empêché les associations d'automobilistes de dire ben c'est pas bien. Et c'est vrai que par rapport aux cyclistes qui se conduisent mal, je trouve que globalement les associations de cyclistes ne considèrent pas assez que c'est leur problème. Et moi, je dis qu'en tant que cycliste militant, ayant milité depuis des années pour que le vélo prenne une place, je me sens une part de co-responsabilité. Et pour moi, c'est mon problème, le fait qu'il y ait des cyclistes qui se conduisent mal.
Mais alors, selon toi, tu dis, quand je te pose cette question, c'est là que le bât blesse. Ces associations, ces institutions, donc a priori, elles n'ont pas encore pris le bon virage. Si elles ne l'ont pas toujours pris, vers quoi elles devraient aller?
Alors attends, Je viens de dire que les automobilistes n'étaient pas mieux. Hein.
Oui, oui, oui.
Bon, donc.
Oui, oui. Et puis tu la disais dans tes chroniques. Oui. On oppose souvent, si on prend l'exemple de Paul Varron, on oppose souvent les militants vélo. On oppose souvent, donnez-moi le nombre de morts oui. à cause du vélo et on en reparle.
Voilà, c'est ça. Alors, je vais te dire, si j'avais une réponse, un conseil à donner, je l'aurais donné.
Ouais.
C'est un mystère pour moi. Enfin, non, c'est pas un mystère. C'est, je ne sais pas quelle est la solution. Hein. Je pense que, et je pense justement que les associations de cyclistes devraient se mettre ensemble et réfléchir ensemble à ce problème et trouver des moyens pour se, pour y réfléchir. Et si vous voulez, je vais aller loin. Les associations cyclistes ont réagi très violemment. À ce qui est arrivé à Paul Varry, elles ont eu raison de le faire, de manifester leur émotion, et ça a permis de mettre en évidence un truc qui était un peu caché, qui est la violence routière.
Oui. Hein.
Et ben, il faut qu'elles mettent autant d'énergie à réagir sur comment on réagit. Alors, on peut pas parler de violence cycliste parce que ce serait exagéré, mais à cette problématique qui fait que aujourd'hui. Justement, c'est un peu ce dont quoi tu parlais. Quand les piétons disent du mal des vélos en disant qu'ils sont dangereux, leur répondent qu'avec des tableaux Excel qui montrent que le nombre de sites de piétons tués par les cyclistes est infime par rapport à celui par des voitures, c'est insultant pour les piétons. Mmh. C'est de dire. Nous ne sommes pas des meurtriers de façon significative, donc le sentiment d'insécurité dont vous faites part, il nous intéresse pas.
Et il a pas
eh ben, il doit nous intéresser, ouais. Il faut qu'on s'en occupe.
Okay. Il est 14h16, on va se faire une petite pause musicale, vous écoutez Rayon Libre, vous êtes sur Cause Commune 93.fm, un Rayon Libre de rentrée, même s'il n'y a pas eu de pause estivale pour cette émission. Aujourd'hui, au micro, c'est Abed Guggenheim, militant infatigable, inlassable, inclassable, aussi pour la cause du vélo. On va s'écouter Hervé, La peur des mots, et on se retrouve dans quelques minutes. Je vous dis à tout de suite.
Et
Nous voilà de retour. Vous écoutez Rayon Libre avec Abel Guggenheim, le créateur de Rayon Libre sur Cause Commune. C'était Hervé, la peur des mots. Abel, on évoquait en première partie la cohabitation dans l'espace public, la responsabilité des cyclistes, le positionnement que devraient prendre les associations. Et si on est d'accord avec ce constat, plus de cyclistes égale plus de responsabilité égale être plus irréprochable, est-ce que ça ne complique pas dramatiquement le rôle des associations et des militants ?
Avant de répondre à cette question, je voudrais dire un truc, c'est que, oui, tout à l'heure, tu as parlé des émissions qui ont eu pendant les vacances, que tu avais pré-enregistrées.
Ouais.
Un certain nombre de nos auditeurs ont perdu l'habitude d'écouter l'émission, puis comme les autres années, c'était des rediffs, peut-être qu'ils n'ont pas fait attention. Alors, je voudrais leur dire, essayez de les écouter. Honnêtement, les émissions que tu as faites sont très intéressantes. Tu interviens des responsables de collectivités, de petites villes et tout ça, qui sont vraiment très intéressantes.
Merci, ouais, c'est une sorte de série d'été où on donne la parole à des élus locaux dans des petites villes de 1000 habitants, 30 000 habitants pour avoir une vision de l'enjeu du vélo dans leur territoire.
Voilà, mais alors, en t'entendant, j'ai oublié ta question.
Ma question, c'est en première partie, on disait plus de cyclistes, c'est plus de responsabilités, ça veut dire devenir plus irréprochable dans la façon d'aborder l'espace public quand on est à vélo. Est-ce que si c'est ce virage-là qui existe, qui est là aujourd'hui et que finalement le combat est différent, est-ce que ça complique pas dramatiquement le rôle des associations ? Parce que d'un autre côté, il faut continuer à se battre pour plus d'aménagements cyclables, parce qu'on n'y est pas non plus.
Oui, absolument. Mais c'est très compliqué. Et bon, moi, je continue à être un peu actif dans le milieu associatif, mais plutôt dans les associations, enfin marginales par rapport au vélo. Mais je sais pas. Honnêtement, c'est un vrai problème. Et c'est aux gens qui. Il y a eu plusieurs générations. Hein. Moi, je fais partie de la génération des gens qui, justement, comme je le disais tout à l'heure, qu'on fait en sorte que le vélo soit pris en compte dans... Bon, donc maintenant, il est. C'est aux gens qui sont dans la machine maintenant de faire en sorte... Et d'une certaine manière, moi, comme je suis plus qu'avant du côté des piétons, des transports en commun, il faut que les cyclistes comprennent que maintenant qu'ils existent, qu'on les méprise, il faut qu'ils comprennent que dans le système global, les autres existent, continuent à exister. Les transports en commun ont été pas mal mis de côté au moment de la Covid, et on n'est pas encore, ils n'ont pas encore retrouvé les chiffres de fréquentation de maintenant. Et puis les villes sont conviviales aussi pour les piétons. Il y a des endroits où les piétons, partout on a mis des pistes cyclables bidirectionnelles latérales, c'est plus compliqué pour les piétons. Ils commencent à s'y habituer, mais il faut que les cyclistes comprennent que c'est pas facile pour les autres et que c'est dans leur travail.
Et alors c'est intéressant parce que tu parles de génération et de personnes qui passent, etc. Est-ce qu'on rentre pas dans un nouveau cycle, le jeu de mots, des nouvelles personnes, Camille Thomé qui annonce après 20 ans qu'elle veut filer vers d'autres horizons, la fube et la fin, entre guillemets, d'Olivier Schneider, l'arrivée d'une groupe présidence, Club des villes cyclables et marchables qui se marient entre guillemets toujours avec vélo et territoire, une nouvelle organisation, de nouvelles personnes. Ça dit quoi pour toi, ça, Abel, que justement, parce qu'il y a des nouveaux enjeux, il faut de nouvelles personnes ?
Absolument, il faut des nouvelles personnes, peut-être des nouvelles entités, justement. Moi, je suis très actif au sein de Rue de l'Avenir, qui est une association déjà très ancienne, qui se préoccupe d'apaisement de la circulation, justement en prenant en compte l'ensemble des participants. Peut-être que c'est plutôt du côté de ces associations. Parmi les associations membres de la FUB, il y en a un certain nombre qui se disent associations de cyclistes et de piétons. Je suis pas sûr que ce soit... je pense qu'il y a un certain nombre d'endroits où les cyclistes ont... à juste titre, considérer que la prise en compte du piéton était une chose importante. Pour le moment, il y a plusieurs associations où ça se manifeste pas, quoi. L'ancien club du ville et territoire cyclable s'est marié à vélo et territoire, comme tu l'as dit tout à l'heure, et est devenu le réseau vélo et marche.
Était le club des villes cyclables et marchables.
Oui.
Vers la fin.
À la fin.
Oui.
Oui, mais à la fin, justement. Oui, tu as raison de nous reprendre. Mais, le et marchable et ensuite réseau vélo et marche, pour le moment, quand on reçoit le bulletin, c'est un pâté d'alouette. Hein, c'est
on parle beaucoup de vélo.
Mais en plus, attends, je veux pas donner l'impression. C'est difficile, hein, parce que c'est pas la même chose. Effectivement, le fait d'aménager les villes en faveur de les apaiser, c'est bénéficiaire aux cyclistes et aux piétons.
Ouais.
Mais quand c'est bénéficiaire pour les cyclistes, c'est pas toujours bénéficiaire aussi pour les piétons. Enfin, c'est pas automatique, mais il faut qu'on y réfléchisse.
Mais justement, c'est une question que j'ai envie de te poser. Aujourd'hui, est-ce que les cyclistes ou les militants vélo, ils peuvent, ils sont légitimes, ils sont audibles, surtout quand on parle de sécurité routière, parce qu'on va vite nous dire, bah, commencez par arrêter de brûler les feux et on en reparlera après. Est-ce que ce discours sur la sécurité routière, il devrait pas être porté par des collectifs de piétons?
Ouais, mais c'est compliqué. Il se trouve que en plus la manière dont sont organisés les piétons, ils avaient une association qui s'appelait les droits du piéton, qui s'appelle maintenant tout le temps les piétons, et dont on peut pas dire. Alors elle est vraiment complètement corporatiste, c'est-à-dire que eux ils rejettent absolument leur ennemi principal, c'est le vélo dans leur discours. C'est pas non plus. Moi j'ai adhéré, j'ai un peu été membre du conseil d'administration. Je l'ai quitté parce que c'est l'inverse, quoi. Tout à l'heure, je reprochais de manière un peu familiale à mes amis cyclistes de ne pas toujours assez prendre en compte les piétons. De l'autre côté, c'est pas mieux. Il faut que tout le monde fasse des efforts.
Et quand on parle du rapport sur la sécurité routière, je voudrais juste revenir un peu sur ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Il y a eu un rapport qui a été proposé par Emmanuel Barbe, c'était au printemps dernier, et au-delà de te demander ce que tu as pensé de toutes ces propositions, quel avenir tu vois justement pour les propositions qui ont été faites?
Alors, Emmanuel Barbe, c'est quelqu'un d'éminemment intéressant, qui a bien réfléchi, qui a fait un gros travail sur ce travail. Mais c'est vrai qu'un certain nombre de cyclistes l'ont mal accueilli parce qu'ils attendaient plus. Ils savaient pas ce que c'est un rapport fait par une autorité comme ça. Il a fait le travail qui lui était demandé dans le cadre de ce qui lui a été demandé, et il l'a plutôt bien fait. La FUB a bien réagi, un certain nombre d'associations cyclistes moins bien. Ils sont injustes vis-à-vis du travail fait par Emmanuel Barbe. Alors maintenant, qu'est-ce qui va en sortir? Ben, j'en sais rien. Et c'est surtout le problème de Monsieur Barbe et des autorités. Alors on est actuellement dans une période où on ne sait pas qui sera Premier ministre ou ministre des Transports dans 8 jours. Donc
donc c'est difficile de se projeter sur et dans 8 jours et dans, si on ne sait pas où on est dans 8 jours, impossible de savoir où on sera dans 6 mois.
Voilà, exactement. Donc je ne sais pas, mais c'est une bonne base de départ, contrairement à ce que croient un certain nombre de cyclistes, d'influenceurs, même qui...
T'es pas d'accord que les propositions sont malgré tout quand même un peu décevantes quand on est avec une gapette de cyclistes?
Non, elles sont pas décevantes. C'est la base. Si tu veux, tout rapport qui est fait dans ces conditions, dans l'agriculture, dans la météo, j'en sais pas, il y a des tas de rapports comme ça qui sont faits par des autorités, ils sont comme ça. D'accord. Ils sont tous comme ça,
c'est l'exercice.
Par exemple, il y a des gens qui ont dit, il a fait 70 km à vélo, il pense à...
Je fais partie de cela. Partie de cela, de dire que Emmanuel Barbe, qui fait 70 km à vélo, il devient expert.
Non, justement, il dit pas je suis expert.
Oui.
Et on va pas demander à quelqu'un qui fait un rapport sur le vélo de faire le tour du monde à vélo ou le Tour de France. C'est-à-dire, il a fait ce qui, et justement, le type qui fait un rapport sur les produits phytosanitaires,
il demande pas d'être agriculteur pendant un an.
Exactement.
Exactement. Le temps file, il est 14h28 et 36 secondes. Je voulais quand même encore te poser une autre question. Les municipales arrivent, ça faisait partie de l'édito. Les municipales arrivent en janvier 2020 à Paris. On a eu un grand oral vélo. Le vélo à Paris, en tout cas, était un vrai sujet porteur politiquement. Est-ce que tu crois que c'est encore opportun en 2026 d'organiser ce même grand oral? Et s'il est organisé, penses-tu que les candidats se prêteront au jeu?
Alors, ça pourrait être opportun. Ma connaissance, c'est pas prévu, mais il faut pas oublier, ça avait été copié sur quelque chose qui se faisait un peu dans beaucoup de domaines à l'époque. Ça se fait moins. Je ne sais pas si ça va se faire. Là, les municipales, justement, on a gagné un truc, c'est que le vélo, ça existe. Donc, il sera dans les programmes. Pour Paris, c'est clair qu'il va y avoir, que ça va être un des éléments, surtout dans la mesure où Anne Hidalgo et ses successeurs ont pris très clairement position pour, et que Rachida Dati a pris clairement position contre. Ça va être forcément, par la force des choses, un élément de la campagne.
Il va falloir qu'on conclue. Bon, merci beaucoup, Abel. Auditeur, auditrice, ce Rayon Libre est terminé. N'oubliez pas, une journée sans pédaler est une journée gâchée. Pendant ce temps de rentrée, c'est encore le moment de vous demander comment allez-vous vous déplacer au quotidien. Le vélo pourrait être une solution, et n'oubliez pas, non plus plus, l'apéro de rentrée chez Cause Commune ce vendredi 5 septembre 2025, 22 rue Bernard Dimet, Paris 18, à partir de 19h. Venez avec une boisson ou pas, mais venez. Restez sur 93.fm, Cause Commune, il est 14h30. Merci de votre fidélité, merci pour vos messages et vos commentaires. La semaine prochaine, on s'intéresse à la Chine. On part en Chine, Abel.
Merci Jérôme.
Merci, bonne semaine à toi.
Rayon libre.